La matinale écho de Radio Classique avec François Geffrier.
Bonjour Isabelle Taillandier.
Bonjour.
Bienvenue sur Radio Classique dans Comment j'ai réussi. Vous êtes la directrice générale de Purina. Vous êtes dans la nutrition pour animaux de compagnie depuis 130 ans. Purina, entreprise mondiale créée aux États-Unis. Au départ, c'était d'ailleurs pour les animaux de la ferme, c'est ce que j'ai découvert.
Tout à fait. Ça a été créé il y a 130 ans donc dans le Missouri par William Danforth. Et au départ, c'était pour les animaux de ferme. Mais très rapidement, dès 1926, en fait, il a créé un centre de nutrition pour les animaux de compagnie. Il a été le premier à créer un aliment complet pour chiens. Donc un aliment complet, ça veut dire qu'il contient tous les nutriments nécessaires pour avoir une alimentation unique toute la journée pour le chien. Et en 1956, également, il était l'inventeur de l'extrusion, qui est un procédé pour fabriquer les croquettes, qui existe toujours.
Et donc aujourd'hui, il y a pas mal de marques, hein. Félix, Gourmet, Purina One, Proplan, Friskies. À quoi correspond chaque marque? Est-ce que c'est des gammes différentes, tout simplement?
Alors, on a effectivement un très large portefeuille de marques en France, plus de 12 marques, qui correspondent en fait à des segments de consommateurs, ou en tout cas des besoins des consommateurs qui sont différents. Il y a énormément de textures, c'est-à-dire qu'on va avoir des produits en boîte qui sont humides, des produits en croquettes, des produits de snacking également, beaucoup de variétés, et puis surtout des gammes qui répondent à des besoins spécifiques, comme des chats qui sont stérilisés, des chats sensibles, des chiens de petite taille, de grande taille. Donc en fait, c'est ça la diversité, on va dire, à la fois de notre portefeuille et de nos marques et de nos produits.
Alors le marché en France est assez colossal, hein, 5 milliards d'euros, 1 million de tonnes d'aliments pour animaux de compagnie, plus 8% par an en moyenne, et plus d'un foyer sur deux en France a un chien ou un chat.
Oui, en effet, c'est un très très gros marché, on ne s'en rend pas compte, mais il y a 15 millions de chats, plus de 15 millions de chats en France et 7,5 millions de chiens.
Il y a deux fois plus de chats que de chiens.
Tout à fait.
La bataille est gagnée par les chats.
Elle a été gagnée parce qu'en effet, il y a 20 ans, c'était à peu près à égalité. Donc c'est intéressant de voir aussi ça évoluer. Effectivement, un foyer sur deux a un chat ou un chien, donc ça concerne une grande partie de la population. Oui, c'est
comment,
très très gros marché.
Comment évoluent ces deux populations-là, et puis peut-être celles des autres animaux de compagnie? Est-ce que ça augmente?
Alors l'augmentation des chats, elle est régulière depuis des années, c'est pas énorme, c'est de l'ordre de 1,5% si on prend sur les 10 dernières années. La population de chiens, en revanche, est stable, d'après les chiffres qu'on a d'une étude qu'on mène depuis 96 avec notre fédération d'aliments pour animaux.
Bon, donc ça vous fait en tout cas de la croissance au global. Comment se fait-il d'ailleurs que la croissance du marché soit de 8% par an? Est-ce que c'est qu'il y a de l'inflation aussi?
Alors effectivement, c'est un marché qui a été touché de plein fouet par l'inflation, hein, l'ensemble de l'industrie, coût des matières premières, coût des emballages, transport, énergie. Et effectivement, il y a eu de l'inflation parce qu'on a fait le maximum pour absorber une partie des coûts, mais malheureusement, on a dû également le refléter dans nos prix de vente.
Et dans cette période d'inflation, où chacun surveille un peu son panier de course, est-ce que les possesseurs de chiens et de chats ont tendance à sacraliser l'alimentation de leur animal de compagnie?
C'est, on va dire, quand ils doivent faire des arbitrages, ce qui est tout à fait compréhensible, c'est en général une des catégories sur lesquelles ils font le moins d'arbitrage.
C'est-à-dire qu'on ne passe pas à une gamme de qualité inférieure.
Il y a certains possesseurs qui le font, mais d'une manière générale, plutôt pas, parce que quand on a trouvé le bon aliment qui nourrit bien son chat ou son chien, que le chat et le chien le mangent avec délectation, c'est important pour être bien nourri, c'est de manger ce qu'on lui, ce qui nous est proposé. En général, voilà, on est un peu réticent à changer.
Oui, parce que j'allais vous demander comment est-ce qu'on choisit la nourriture pour son chien, pour son chat le plus souvent. Est-ce que c'est quelque chose qui semblerait aussi appétissant à un humain qui va nous parler? Est-ce que c'est juste ce que l'animal va lui-même choisir en fonction de ses goûts?
Tout dépend de la prescription. Donc au moment en fait où la personne accueille l'animal dans son foyer, le moment en fait décisif, c'est le moment où il va l'avoir. Et il va décider comment... Donc la prescription, par exemple, du vétérinaire, de l'éleveur, de la personne qui lui a remise, ou bien les habitudes qu'il avait quand il était jeune, s'il avait, par exemple, un animal au foyer, font beaucoup dans le choix de l'alimentation. Mais nous avons aussi, sur nos sites, par exemple, et un service consommateur qui permet d'orienter les possesseurs qui nous demandent des conseils sur nos produits. Donc,
Est-ce que c'est un monde dans lequel on innove, celui de l'alimentation animale?
Alors oui, les 130 ans effectivement de Purina sont également un levier pour l'innovation, puisqu'on a énormément d'informations. C'est un secteur très innovant, on a plus de 20 innovations par an en moyenne pour Purina. Il y a beaucoup d'innovations sur le marché.
Et il n'y a pas un côté gadget, justement, dans tous les aspects friandises. J'ai pas d'animal de compagnie, hein, je le dis, donc je suis vraiment un peu un néophyte.
Alors nous, on est plutôt sur l'aliment complet. On a aussi des gammes de snacks, mais on est plutôt sur l'aliment complet, donc un aliment qui fait vraiment l'intégralité du repas de l'animal. Et en fait, on se spécialise. On a des produits qui sont extrêmement innovants, comme par exemple un produit qui s'appelle Proplan Leaf Clear, qui permet de réduire le pouvoir allergène des poils de chat.
D'accord, ah, ça, voilà. C'est intéressant aussi.
C'est très intéressant. Et qui permet en fait au possesseur qui vit avec un chat et qui est allergique de réduire le niveau d'allergie. Donc c'est par exemple ce type de produit. Donc on a des produits qui sont de plus en plus pointus en réalité. Donc c'est pour ça aussi que l'innovation, elle est liée à l'expertise scientifique et à la recherche.
On va de plus en plus, paraît-il, du pet food, donc la nourriture pour animaux, au pet care, le soin apporté aux animaux. Qu'est-ce que ça traduit concrètement?
Ça fait effectivement partie des ambitions. Nous, on est leader sur le marché. On a, depuis 2019, donc on est leader sur l'alimentation. Mais aujourd'hui, on voit que les possesseurs qui sont plutôt plus jeunes, plutôt plus digitaux et plutôt plus tournés vers la relation personnalisée et le service avec les marques, veulent qu'on les accompagne tout au long de la vie de l'animal. Et donc, nous, on va développer des nouveaux services qu'on appelle effectivement du pet care, des services à valeur ajoutée qui vont permettre d'aider le possesseur, par exemple, à trouver son animal, mais aussi à l'éduquer, à le faire garder. Donc, c'est ce type de service, c'est ce qu'on appelle du pet care. Et dernièrement, on a lancé un service sur notre site, qui s'appelle Animal Checkup, avec une start-up, qui permet, via un rapide questionnaire, de faire un pré-diagnostic si vous avez des soupçons sur des symptômes de votre animal.
On voit beaucoup d'objets connectés aussi dans tous les salons de Las Vegas et autres pour les animaux. Est-ce que ça a du sens, comme ça, de traquer avec tout un tas de puces son animal ?
Alors, c'est la connexion des animaux, c'est la connexion des humains. J'ai envie de dire, chacun y voit un bénéfice. Oui, ça peut avoir des bénéfices, notamment sur le tracking de santé, parce que, par exemple, certains outils connectés permettent de détecter si un chien va se gratter l'oreille à intervalles réguliers dans la journée, c'est qu'il a un problème, par exemple. Donc, oui. Et si vous n'êtes pas là toute la journée, c'est bien de pouvoir le savoir.
Purina a rejoint Nestlé en 2001. Aujourd'hui, quelle est la logique du lien avec Nestlé? Comment ça fonctionne?
Donc effectivement, Nestlé a racheté Purina en 2001 et c'est vraiment la logique, c'est cette recherche de l'innovation, la nutrition. On a bénéficié en fait de l'ensemble des connaissances que Nestlé avait déjà et Purina. Les deux avaient déjà du pet food, hein, puisque Nestlé avait déjà des marques. Et ça a permis en fait d'allier des forces, notamment en recherche scientifique, puisqu'on a aujourd'hui 8 centres R&D à travers le monde.
Isabelle Taillandier, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
La directrice générale de Purina avec nous ce matin en direct sur Radio Classique dans Comment j'ai réussi. Très bonne journée à vous.